j'écoutais le journal de télévisé. Et une info nous expliquait qu'à Paris, une montre de valeur de 800 000 euros fut volée à l'arraché près des Champs-Élysées. Alors la première réflexion que j'ai eue, Nicolas, si tu as une montre de 800 000 euros, ne va pas sur les Champs parce que tu risques de te la faire voler. Mais voilà, l'histoire continue et la journaliste qui expliquait ce vol à l'arraché sur les Champs-Élysées expliquait que l'enquête avait révélé que la montre de luxe était une contrefaçon. Tant pis pour le voleur, je dirais. Mais ça m'a poussé, cette affaire, à la réflexion dans mon cœur, de réfléchir un petit peu sur la contrefaçon. Existe-t-il des signes visibles qui permettent de connaître sans équivoque possible une vraie conversion en Jésus-Christ? Est-ce qu'à votre avis, il existe des signes visibles qui permettent de vous reconnaître en tant qu'enfant de Dieu? Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé cette question. Est-ce que le frère ou la sœur qui est à côté de moi, elle est vraiment un enfant de Dieu? Est-ce qu'elle n'est pas une contrefaçon? Est-ce que ce n'est pas du toc? Et alors, je ne suis pas là, n'est-ce pas, pour porter un jugement, loin de moi, cette pensée ce matin. Mais je pense que la parole de Dieu donne un enseignement réel par rapport à cela. Et nous allons ensemble mener une petite enquête pour savoir si la personne que vous avez à côté aujourd'hui, est-ce qu'elle est une réelle enfant de Dieu ou est-ce du toc? La Bible regorge de passages qui parlent très clairement d'une marque de distinction par rapport à la conversion. Certains commentateurs de la parole de Dieu ont même donné des titres, je dirais ce qu'on appelle des titres accrocheurs. Quand un pasteur va à la maison de la Bible ou à la CLC ou dans d'autres librairies chrétiennes, on aime bien les titres accrocheurs. Et vous avez dans un commentaire qui existe à la maison de la Bible, Warren Wisby, qui est décédé maintenant, c'est un commentateur, un pasteur américain, qui a écrit toute une série sur la Bible, et une des argumentations pour attirer les personnes pour lire son commentaire, eh bien, sur l'épître de Jean, 1 Jean, la première épître, pas l'évangile, mais 1 Jean, eh bien, son titre, c'est « Soyez authentique ». Si vous lisez cet épître dans son ensemble, donc les 5 chapitres dans son ensemble, eh bien, vous allez voir qu'au fur et à mesure de la lecture, vous allez voir que le commentateur a mis l'accent sur l'importance de l'authenticité. C'est-à-dire que pour lui, au travers de l'épître de Jean, il y a un thème qui est là, flagrant, quand on lit l'épître de Jean, c'est l'authenticité. Et je pense que c'est important, nous, en tant qu'enfants de Dieu, de savoir si les personnes qui sont à côté de nous sont réellement authentiques. Et je m'expliquerai au travers de l'exhortation de ce matin. On est dans un monde qui n'est pas du tout dans l'authenticité. Enfin, personnellement, j'ai jamais eu de montre à 800 000 euros et j'espère que j'en aurai jamais de montre comme cela. Mais on peut s'apercevoir que la contrefaçon existe réellement et que nous avons besoin de reconnaître si la personne qui est à côté de nous est authentique. Voici ce que Jean dit dans son épître, 1 Jean chapitre 2 verset 3, voici comment nous savons que nous connaissons le Christ. c'est parce que nous obéissons à ses commandements. Je viens de lire le texte dans la version Semeur. C'est-à-dire que l'enfant de Dieu, il se reconnaît à l'obéissance des commandements de Dieu. Ça, c'est pour l'aspect de l'authenticité. C'est-à-dire que l'enfant de Dieu doit se reconnaître, les preuves évidentes doit se reconnaître dans le fait que nous obéissons aux commandements de Dieu. L'Épître aux Romains, alors je n'ai pas descendu toute ma bibliothèque, mais l'Épître aux Romains, chapitre 8, donne aussi un éventail de signes qui indiquent l'authenticité de la conversion. Donc le chapitre 8, je vous laisse le lire à la maison, mais en attendant, certains passages de la parole de Dieu nous montrent clairement l'authenticité. C'est-à-dire que quand une personne a accepté Jésus dans son cœur, quand elle s'est convertie, eh bien, nous avons des signes clairement indiqués dans la parole qui indiquent de son authenticité. Pourquoi je me suis posé cette question? Je pense que je reçois beaucoup de lectures dans mon bureau. Je suis même abonné à des magazines évangéliques. Et dans ces magazines évangéliques, parfois, on nous montre que nos contemporains n'acceptent plus le péché. C'est-à-dire que quand on leur parle de péché, c'est une parole qui est très dure et très directe, et le mot repentance n'est plus à la mode. On va vous parler d'excuses, de remords. C'est pour éviter de choquer nos contemporains. Tout cela m'a poussé à la réflexion, et je voudrais vous montrer quand même que nous voulons revenir, nous, à l'essentiel, quand nous évangélisons une personne, quand nous parlons de la parole de Dieu à une personne, eh bien que la Bible dit clairement des choses, et nous devons là remettre la Bible au centre de ce qu'elle enseigne. Les gens prennent parfois des décisions. J'ai personnellement pris un engagement quand je me suis converti avec le Seigneur. À un moment donné, je me suis reconnu comme pécheur, donc j'ai pris une décision à un moment donné. Vous avez peut-être pris une décision à un moment donné. Seul dans votre chambre, en tête à tête avec le Seigneur, vous vous êtes peut-être posé certaines questions. Et je pense que c'est important de rappeler cela, parce que c'est vrai, les choses se voient dans le secret. On n'est pas là pour juger telle ou telle personne, mais il faut dire la vérité aujourd'hui. Parfois, certaines personnes proclament l'évangile à bon marché et oublient parfois de citer, de dire les choses qui se trouvent dans la parole de Dieu. Et on oublie de passer parfois à ce qui est essentiel au travers de la parole de Dieu. Nos contemporains, les anciens, pas ceux d'aujourd'hui, les anciens, les ont appelés les signes de la grâce. Alors je voudrais au travers de rappeler ces quelques signes de la grâce que nous trouvons dans la parole de Dieu. Alors on aurait pu aller dans l'épître de Jean et regarder ces signes. On aurait pu regarder dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, mais vous avez un texte qui est bien connu dans la parole de Dieu, c'est juste après la prédication de l'apôtre Pierre. Et vous avez dans ce texte, je dirais, les signes qui expliquent comment les premiers chrétiens ont accepté Jésus et nous indiquent clairement comment nous, aujourd'hui, nous devrions aussi les vivre dans notre quotidien. Alors, je voudrais vous faire cette lecture. Ça se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2. On ne pourra pas les regarder tous aujourd'hui. Il y en a 6, voire 7. On regardera dans le détail la fois prochaine. En tout cas, je vais essayer d'avancer, au moins aujourd'hui, de 2. Et puis on verra les autres la prochaine fois. Le texte, c'est Actes chapitre 2, à partir du verset 38,
37, pardon. Après avoir entendu ce discours, ils eurent leur cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous ? » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus, au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu, et ils avaient tous en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Nous avons dans ce texte une explication claire des personnes. Il y a un tableau clairement établi dans ce texte qui montre que les personnes qui avaient accepté Jésus-Christ, ils étaient vus et connus de tous et que leur vie avait été transformée. Leur cœur avait été transformé à un instant et à un moment donné, quand le Seigneur, quand ils se sont repentis, eh bien, quand le Seigneur est venu faire l'œuvre dans leur cœur, eh bien, ça a changé complètement leur vie. Nous avons commencé, je ne sais pas si vous vous souvenez, en début d'année, être enracinés et fondés en Jésus-Christ. Je pense que l'Évangile doit être enraciné et fondé en Jésus-Christ. Quand nous disons quelque chose aux personnes qui nous entourent, à ce monde qui se perd aujourd'hui, nous devons dire tout ce que la parole de Dieu dit dans l'Évangile. Et l'Évangile, l'apôtre Pierre l'a enseigné à cette nation qui était en train de se perdre, les Juifs et les non-Juifs qui étaient là, et à un moment donné, Pierre les a poussés à la repentance. Et je pense que c'est important de parler de cette affaire de repentance. Parce qu'aujourd'hui, je trouve que certains messages sont minimisés et limitent l'aspect de la repentance, de la conviction du péché que la parole de Dieu nous parle au travers de ce texte que nous venons de lire. Il était important que les premiers chrétiens, et même encore aujourd'hui, comprennent cet aspect de la repentance. C'est le premier signe de la conversion. Les personnes doivent se repentir. La Bible dit clairement que nous devons avoir une conviction de péché. Pour venir à Jésus, nous devons avoir une conviction de péché. Le texte le dit clairement, ils eurent le cœur vivement touché. Les personnes qui ont entendu la parole de Dieu prêchée par l'apôtre Pierre, eh bien le texte nous dit qu'ils eurent le cœur vivement touché. Allez, un peu de grec. Vous savez que le mot « toucher » dans le grec,
si vous le mettez littéralement, c'est piqué au vif. Il y a certains commentateurs de la parole qui disent « Ils eurent leur cœur transpercé. » Littéralement transpercé. Quand ils ont entendu la parole de Dieu, le texte dit clairement, nous avons minimisé, les commentateurs ont minimisé cette affaire, mais le texte est clair, quand ils ont accepté Jésus, ils ont eu la conviction dans leur cœur que s'ils ne se repentaient pas, ils allaient mourir dans l'éternité, dans l'enfer. Ils eurent leur cœur touché. Ils ont eu honte. Ils ont eu leur vie, je dirais, défilée devant leurs yeux. Et ils ont dû se dire, si je n'accepte pas Jésus aujourd'hui, eh bien, je vais être pour l'éternité loin du Seigneur. Je pense que nous avons besoin de le comprendre. La conversion n'est pas quelque chose, même si parfois on parle de certaines émotions, la repentance est quelque chose de réel. La repentance, quand on parle de la repentance, c'est se reconnaître individuellement à un moment donné pécheur et se présenter devant le Seigneur, de se reconnaître, si je n'accepte pas Jésus, je suis condamné en enfer. C'est ça la repentance, c'est reconnaître Jésus-Christ dans son cœur, lui qui va complètement me changer au travers de la croix de Jésus. Vous avez un texte qui se trouve dans l'Ancien Testament, où vous avez le roi David qui à un moment donné péché. Et dans ce texte, on nous parle du péché d'adultère. Et quand David, Dieu lui a dit par le biais du prophète, tu as péché, c'est toi le fautif dans cette affaire. Eh bien, si vous lisez le psaume 51, verset 19, David dit qu'il a eu le cœur brisé et contrit. C'est-à-dire qu'il a tellement été touché dans son cœur. Prenez le temps de lire le psaume 51 pour vous montrer que le Seigneur, à un moment donné, est venu bousculer cet homme parce qu'il avait commis le péché qu'il avait éloigné de Dieu à un moment donné dans son existence. Nous devons avoir aussi un cœur brisé et contrit comme David. Et Dieu entend cela et voit cela dans nos vies. Nous devons nous approcher de Dieu avec un cœur repentant. Abandonner notre ancienne vie quand elle est à abandonner. Quand il y a un péché caché, dire non, ça je ne peux pas continuer avec cela. Je dois l'abandonner au pied de la croix. Dieu désire des hommes qui changent complètement leur vie. Savez-vous que le mot repentance dans la Bible, c'est quelque chose qui dit clairement qu'on se détourne de son ancienne vie et qu'on change de direction. Le mot repentance dans la Bible, c'est ça. C'est-à-dire que nous étions en train de marcher comme ça. Quand Dieu nous a touchés, nous avons fait demi-tour et nous allons dans le sens contraire. Pourquoi j'insiste ce matin avec cette idée de repentance? Parce que vous avez aujourd'hui, c'est une mode, je n'invente rien. Il suffit de regarder les médias parfois, de savoir, tiens, Justin Bieber a accepté Jésus, il s'est converti. Vous avez un autre personnage très connu aujourd'hui, un certain Neymar. Paraît-il, il a aussi accepté Jésus. Alors la question que je me suis posée, est-ce que c'est pas un petit peu rapide de dire que ces personnes très connues ont accepté Jésus? Je ne suis pas là pour porter un jugement, loin de moi, cette pensée de porter un jugement. Mais en même temps, je pense que certaines personnes, aujourd'hui, prennent à la légère cette affaire de conversion. Voici ce que Paul a rappelé aux Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 13, pardon, verset 7. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Voilà, Paul disait, voilà, on va remettre les choses à plat. Examinez-vous vous-même si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Quelque part, ce que nous disons publiquement doit être vécu dans notre quotidien. Si vous dites que vous êtes enfant de Dieu, vous devez paraître dans votre maison un colorant. Vous ne devez pas dire à l'église « Je suis un enfant de Dieu » et vous montrer à la maison comme un païen. Vous devez vivre dans l'authenticité. Vous ne devez pas être une contrefaçon. Si vous avez accepté Jésus, si vous vous êtes repenti de vos péchés, vous devez vivre clairement en tant que repenti. La repentance n'est pas un coup de tête. La repentance ne doit pas être prise à la légère, ni dans notre vie, ni dans notre quotidien. La repentance, c'est quelque chose de sérieux. Moi, je sais que le jour où je me suis repenti, c'était quelque chose de sérieux. Je savais que Jésus-Christ était rentré dans ma vie et que je voulais le vivre sérieusement. Je voulais me soumettre à sa parole. Si je résume un peu, la conversion authentique, c'est le premier point. Le premier signe, c'est la repentance. La repentance, c'est la conviction de péché. La personne est couverte de honte face à ses péchés, et pas les péchés de son voisin. Pas les péchés de ton épouse ou de celle qui est à côté de toi. Pas les péchés de ton enfant, c'est ton péché personnel. Chacun devra rendre compte un jour quand il se présentera devant Dieu pour sa vie personnelle. Tu ne pourras pas dire devant le Seigneur « c'est à cause de lui » ou « c'est à cause d'elle que j'ai vécu ce genre de choses » parce que devant le Seigneur, quand il va ouvrir le livre de la vie, si ton nom n'y est pas, c'est parce que tu ne t'es pas repenti de tes péchés. Elles deviennent aussi dépendantes de la croix. Si vous regardez les premiers chrétiens, leur seul moyen c'était Jésus-Christ. Et si Paul, si Pierre et les autres ont dit clairement « repentez-vous », c'est que le seul moyen c'était Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre moyen qui a été donné sur la terre pour acquérir la vie éternelle. Jésus propose la croix du calvaire. Si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, vous ne serez pas avec lui dans l'éternité. C'est le seul moyen que Jésus-Christ a donné à l'humanité pour être réconcilié avec l'humanité. Il y a une coupure avec l'ancienne vie. Je rappelle, la repentance, c'est un changement de direction. Je faisais comme cela, j'accepte Jésus, je me repens, je reviens en arrière. Si on peut le dire comme cela, je change de direction. Ma vie passée, je dois la laisser dans ma vie passée. Si je volais, je ne dois plus voler. Si je mentais, je ne dois plus mentir. Si je commettais un adultère, je ne dois plus commettre l'adultère. Si je faisais des choses qui étaient répréhensibles par Dieu, je dois changer complètement de vie. Je me sépare avec le monde. On a plus de mal. Je dois le confesser. On a plus de mal de se dire « Je veux me séparer de ce monde. » Mais les premiers chrétiens, se sont séparés littéralement de ce qu'ils étaient en train de vivre, et ils se sont séparés du monde pour vivre quelque chose de nouveau. Et souvent, nous avons cette attitude de se dire, mais comment aujourd'hui, au XXIe siècle, on peut vivre quelque chose de nouveau? C'est possible, à condition d'obéir au commandement de Jésus-Christ. C'est possible de vivre dans un monde nouveau. Et en même temps, c'est accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et comme son Sauveur. Sauveur, pardon, et comme son Seigneur. Pourquoi je dis ça? Parce que vous savez, souvent dans la repentance, on ne donne qu'une partie à Dieu. Quand on se repent, on se dit, bon, ben, ça c'était pas bon, donc je peux demander pardon. Ça aussi, mais ça, Seigneur, c'est ma vie privée, c'est à moi. Donc encore un petit peu de temps. Non, non, quand on se repent totalement. Votre cœur ne vous appartient plus, il appartient au Seigneur. Et c'est au travers de Jésus-Christ que vous avez un cœur nouveau. Votre vie ne vous appartient pas. Si vous avez honte d'une manière de vivre ou d'un certain péché que vous avez dans votre quotidien, vaut mieux l'abandonner parce que ça ne glorifie pas le Seigneur. Si vous en avez honte, faites une rupture totale avec cela. Sinon, c'est de la contrefaçon. C'est pas authentique. C'est du toc. J'en ai une preuve. Timothée, Deux Timothée, chapitre 3. Paul qui exhorte ce jeune Timothée en disant des choses vraiment très intéressantes. J'ai l'impression que parfois, la Bible est le journal matinal quand on le regarde avec un petit peu de sagesse et de discernement, ce journal. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Alors c'est vrai que souvent, on parle de ces temps difficiles. Mais nous sommes dans cette, je le crois réellement, on est vraiment dans cette période. Alors, je ne suis pas là pour vous donner une date du retour de Jésus, je m'en préserverai. Tout simplement parce que j'ai peur du châtiment de Dieu. Si jamais je donne une date de son retour, j'ai peur que Jésus va me foudroyer. Je dis, mais attends, j'ai rien dit de tout ça dans la Bible. Donc pourquoi tu donnes des dates qui ne sont pas dans le texte? Mais par contre, le Seigneur dit quand même certaines choses et je veux quand même les analyser avec vous. Sache que dans le dernier temps, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes.
Oui, c'est vrai!
Je dois le constater, c'est une vérité ça, je ne mens pas que les hommes aujourd'hui sont égoïstes. Amis de l'argent, oui, c'est vrai. C'est vrai. Les gens courent après ça. Je me dis, est-ce qu'un chrétien doit courir? Ah oui, il doit courir, mais avec intelligence, hein. Fanfaron, hautain, blasphémateur, rebelle à leurs parents. C'est quelque chose qui m'attriste, ça. Pourtant, je ne suis pas si vieux que ce que vous le pensez. J'ai que 55 ans. Mais à la maison, mon père a marqué l'autorité. Je ne regrette nullement d'avoir passé mon existence avec mon père. Même s'il était sans Dieu, il y avait à la maison une certaine rigueur que j'ai toujours, et je dis merci Seigneur, même si cet homme était sans Dieu, il y avait le respect. On ne sortait pas de table tant qu'on n'avait pas fini de manger. La télévision était bannie. Le téléphone portable, on n'en avait pas. Quand on mangeait tous ensemble. Aujourd'hui, qui n'a pas vécu ça? Maman, je prends le plateau et je vais devant la télévision et puis je fais soirée gaufre. Qui n'a pas vécu ce genre de choses? Mais le fait d'être rebelle à ses parents, c'est pas forcément dans la société. Nous avons parfois dans nos maisons des enfants qui sont rebelles et qui ont besoin de Jésus-Christ. Vous avez des enfants qui sont ingrats, qui sont irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, prêtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Mais c'est vrai ça. Combien de jeunes aujourd'hui, malheureusement, s'éloignent de Dieu parce que les plaisirs de ce monde les prend. Et c'est triste, n'est-ce pas, de constater que même dans nos familles chrétiennes, la Bible n'a plus sa première place. On ne prend plus le temps de lire la Bible en famille. On ne prend plus le temps de prendre du temps avec le Seigneur, tout simplement avec nos enfants. Et on s'étonne parfois que nos jeunes, nos enfants, s'éloignent de Dieu parce que le monde les prend. Ils ne veulent plus venir à l'église. Moi, je suis triste quand il y a quelqu'un qui me dit « Je ne vais plus à l'église. Je ne prends plus la décision de venir à l'église. » Alors, bien sûr, je ne suis pas issu d'une famille chrétienne. L'évangile, je l'ai connu. Ma famille n'était pas du tout dans l'évangile. Mais je trouve que beaucoup d'enfants aujourd'hui, et les enfants que vous avez ici dans l'église, ont un sacré privilège d'être dans une famille de Dieu. Et vous, en tant que parents, vous devriez en prendre conscience que vos enfants ont un sacré privilège d'être dans une famille de Dieu. Je continue le texte, verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Le texte est clair. Il y a certaines personnes qui vont me montrer une apparence de piété. La personne que Dieu a mis à côté de vous, peut-être ce matin, a une apparence peut-être de piété. La vie en Christ n'est pas une contrefaçon. C'est pas du toc. Et je pense que nous devons manifester cette authenticité en tant qu'enfant de Dieu. Si vous avez un péché caché, abandonnez-le. Si Jésus-Christ n'a pas pris la place 100% dans votre cœur, examinez-le. Si Jésus, pour vous, n'a pas pris ou n'est pas le sauveur de votre vie, réfléchissez. Je pense que la parole de Dieu nous dit clairement qu'il faut abandonner ce siècle présent. Ce siècle présent nous éloignera de toute façon de Dieu, que vous le vouliez ou pas, que vous soyez d'accord ou pas. Ce siècle, la période que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, est une période qui nous éloigne totalement de Dieu. Imaginez les générations futures. Des fois, je me pose la question. Si sur les Champs-Élysées, on vole une montre à 800 000 euros. Il est du toc. Imaginez dans le futur, les avenues, ça va être quoi? À Marseille, parce que j'ai l'accent de Marseille. Vous ne vous promenez pas dans les rues avec la fameuse chaîne en or. Si vous en avez ici, il vaut mieux les cacher. Mais à Marseille, vous ne vous promenez pas avec votre chaîne en or. Vous risquez d'y avoir des voleurs, des cambrioleurs de chaînes. Alors à Marseille, ils savent où taper, hein, quand il y a besoin d'être tapé. Personnellement, j'ai plus de chaînes en or. J'en avais une quand j'étais tout petit, mais maintenant j'en ai plus, et tant mieux. Comme ça, on ne court pas après derrière pour ma chaîne en or. Mais à Marseille, à un moment donné, c'était la mode. Vous savez, les chemises ouvertes, col ouvert, les poils, il fallait que ce soit bien visible de tout le monde. Et surtout la belle chaîne en or. Là, il fallait qu'elle soit vue de tous, cette chaîne en or. C'est pas mieux hein, dans le sud de la France. Nous devons vraiment comprendre cet aspect de la grâce de Dieu. Si Jésus-Christ nous parle de la repentance, c'est que nous devons passer par la repentance. Avant de gravir les montagnes de la gratitude, de la reconnaissance, nous devons passer d'abord par la repentance. Si votre message, demain, vous ne dites pas à une personne « Repentez-vous de vos péchés », c'est que vous êtes passé à côté du message de l'Évangile. Dieu ne veut pas que vous soyez une contrefaçon. Dieu veut que vous soyez de l'authentique. Aux yeux de Dieu, vous avez de la valeur. Plus que 800 000 euros. Aux yeux de Dieu, vous avez de la valeur. Et je pense que c'est important de le rappeler. Il y avait le deuxième signe, je dois m'arrêter là. Je vais continuer parce qu'il y en a plusieurs. C'est juste pour terminer. On est dans un monde illusoire, superficiel. Manifestant de l'authenticité, là où c'est que le Seigneur nous a placés. Amen.
Amen.
Amen. Amen.